l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 5. Une étrange révolution.
Première partie.
Que pouvait bien signifier cette révolution pour les Indiens? Totalement absent de la prose fleurie de la Déclaration, ils n'étaient certes pas considérés comme des égaux lorsqu'il s'agissait de choisir ceux qui seraient appelés à gouverner un pays dans lequel ils vivaient pourtant, ou lorsqu'il s'agissait de garantir la recherche du bonheur, ce dont il s'était fort bien chargé tout seul au cours des siècles qui avaient précédé l'arrivée des Européens. Les Anglais désormais évacués, les Américains allaient pouvoir mettre en route l'inexorable dynamique d'expulsion des populations indiennes et les tuer lorsqu'elles s'y opposeraient. En bref, comme l'a fort bien résumé Francis Jennings, les Blancs américains combattaient contre l'impérialisme anglais à l'est du continent et pour affirmer la leur à l'ouest. Avant la Révolution, les Indiens avaient été soumis par la guerre en Virginie et en Nouvelle-Angleterre. Ailleurs, ils avaient établi un mode de coexistence pacifique avec les colonies. Pourtant, à partir de 1750, l'essor de la population coloniale imposait de trouver de nouvelles terres à l'ouest, entraînant ainsi des conflits avec les Indiens. Les prospecteurs fonciers de l'est firent leur apparition dans la vallée de l'Ohio, sur le territoire d'une confédération de tribus, la Covenant Chain, dont les Iroquois étaient les porte-parole. Dans l'état de New York, une escroquerie assez complexe permit de voler quelques 320 000 hectares de terre aux Mohawks, mettant ainsi fin à la période de coexistence pacifique entre eux et la population blanche de la province de New York. Pendant la guerre de 7 ans, les Indiens s'étaient en grande majorité rangés aux côtés des Français, qui étaient avant tout des négociants et n'occupaient pas effectivement les territoires indiens. En revanche, les Anglais convoitaient à l'évidence leur terrain de chasse et leur espace vital. Quelqu'un prit en note la conversation que Shingas, chef des Delaware, eut avec le général anglais Braddock, qui sollicitait son aide contre les Français. Shingas demanda au général Braddock si les Indiens qui étaient amis des Anglais seraient autorisés à vivre et à commercer avec les Anglais et à posséder des domaines de chasse suffisamment vastes pour assurer leur survie et celle de leur famille. À quoi le général Braddock répondit qu'aucun sauvage ne pouvait posséder la terre. À quoi Shingas et les autres chefs répondirent que s'ils ne pouvaient pas être libres de vivre sur leur terre, ils n'avaient aucune raison de combattre pour elle. En 1763, lorsque la guerre de 7 ans prit fin, les Français, abandonnant leur ancien allié, cédèrent aux Anglais les terres situées à l'ouest des Appalaches. Les Indiens s'allièrent alors pour mener des attaques contre les forts anglais de l'ouest. C'est ce que l'on appelle depuis, du côté anglais, la révolte de Pontiac, que Francis Jennings qualifie quant à lui de guerre de libération et d'indépendance, sur ordre du général anglais Jeffrey Amherst, commandant de Fort Pitt, offrit aux chefs indiens qui le combattaient, au cours d'une négociation, des couvertures infectées par la variole. Il s'agissait d'une première dans ce que nous qualifions aujourd'hui de guerre bactériologique. L'épidémie se déclencha rapidement chez les Indiens. Malgré cela, et malgré l'incendie des villages indiens, les Anglais ne parvinrent pas à lasser la combativité des Indiens, qui poursuivirent leur guérilla. Une paix fut décidée. Les Anglais acceptèrent d'établir sur les Appalaches une ligne à l'ouest de laquelle on ne pourrait fonder de nouvelles colonies. Il s'agit de cette proclamation royale de 1763 qui provoqua la fureur des Américains. La charte royale, originellement accordée à la Virginie, indiquait que son territoire s'étendait à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique. Dès lors, on comprend mieux pourquoi la plupart des Indiens se rangèrent aux côtés des Anglais pendant la Révolution. Après le départ de leurs alliés français, puis celui de leurs alliés anglais, les Indiens se retrouvaient seuls, face à une nation avide de nouvelles terres. Les Américains considéraient donc désormais que les terres indiennes leur appartenaient. Pourtant, les expéditions qu'ils envoyèrent vers l'ouest pour concrétiser cette revendication se soldèrent par autant d'échecs, dont témoignent leur nom donné aux batailles, l'humiliation de Harmar et la honte de Saint-Clair. Le sort des esclaves noirs après la Révolution américaine est plus complexe encore. Des milliers de Noirs combattirent aux côtés des Anglais, et 5000 seulement dans les rangs de l'armée révolutionnaire, pour la plupart originaires du Nord. Pourtant, on trouvait également des Noirs affranchis de Virginie et du Maryland. Les provinces les plus au sud hésitaient en revanche à armer les Noirs. Dans le chaos et l'urgence de la guerre, des milliers d'esclaves devinrent libres, dont la plupart durent partir sur les navires anglais à la fin de la guerre pour s'installer en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Écosse, dans les Antilles ou pour retourner en Afrique. D'autres, assez nombreux, restèrent en Amérique en tant qu'affranchis, échappant à leurs anciens maîtres. Dans les États du Nord, l'heureuse combinaison de l'engagement militaire des Noirs dans les rangs de la Révolution, de la nécessité économique décroissante de l'esclavage et de la rhétorique révolutionnaire conduisit, certes lentement, à la fin de l'esclavage. En 1810, 30 000 Noirs, un quart de la population noire des États du Nord, étaient encore esclaves. En 1840, il n'y en avait plus qu'un millier. Dans les provinces septentrionales du sud des États-Unis, on trouvait plus de Noirs affranchis qu'auparavant. Cela entraîna cependant un durcissement de la législation à leur égard. En revanche, au sud du sud, l'esclavage s'accrut en raison de l'essor des plantations de riz et de coton. La Révolution créa néanmoins un espace d'expression pour les revendications de la population noire à l'adresse de la société blanche. Ces revendications émanaient, d'une part, des nouvelles élites noires, peu nombreuses de Baltimore, Philadelphie, Richmond ou Savannah. D'autre part, d'esclaves courageux et cultivés. Au nom de la Déclaration d'indépendance, les Noirs s'adressaient au Congrès et aux législatures locales pour réclamer l'abolition de l'esclavage et l'égalité des droits. À Boston, ils exigèrent de toucher le même type d'allocation municipale que celle auxquelles les Blancs avaient droit pour l'éducation de leurs enfants. À Norfolk, ils demandèrent à pouvoir témoigner devant les tribunaux. À Nashville, ils affirmaient que les Noirs affranchis devraient avoir les mêmes opportunités de réussite que n'importe qui. La condition sociale inférieure des Noirs, l'exclusion des Indiens, la suprématie assurée des riches sur les pauvres dans la nouvelle société américaine, tout cela existait déjà dans les colonies lorsque débuta la Révolution. Une fois les Anglais évincés, on put l'inscrire sur le papier, le consolider, le régulariser et même le légitimer dans la lettre même de la Constitution des États-Unis. élaborée lors d'une convention réunissant à Philadelphie les chefs révolutionnaires. Au début du XXe siècle, l'historien Charles Bird exposait une autre vision de la Constitution américaine, qui provoqua colère et indignation, et même un éditorial vengeur du New York Times. Dans son livre « An Economic Interpretation of the Constitution », Bird affirmait que, dans la mesure où le premier objectif d'un régime est, en dehors de la simple répression de la violence physique, d'édicter des règles qui régissent les rapports de propriété entre les membres d'une même société, les classes dominantes, dont les droits doivent être ainsi définis, cherchent inévitablement à obtenir du gouvernement que ces règles soient compatibles avec les intérêts les plus nécessaires à la continuation de leur stratégie économique. À moins, évidemment, qu'ils ne contrôlent eux-mêmes les instances de gouvernement. En bref, Bird affirme que les riches doivent, dans leur propre intérêt, soit contrôler directement le gouvernement, soit exercer un contrôle sur les lois au travers desquelles le gouvernement opère. Bird fonde son analyse générale de la Constitution sur l'étude des situations économiques et des opinions politiques des 55 hommes qui se réunirent à Philadelphie en 1787 pour élaborer la Constitution américaine. Il relève que la majorité d'entre eux étaient des professionnels du droit, que la plupart étaient propriétaires terriens, possédaient des esclaves, des manufactures, des compagnies maritimes, que 50% d'entre eux plaçaient de l'argent rapportant des intérêts, et que 40 de ces 55 hommes, si l'on en croit du moins les archives du département ou trésor, possédaient des titres gouvernementaux. Bird découvrit ainsi que la plupart des rédacteurs de la Constitution avaient, à l'évidence, économiquement intérêt à établir un gouvernement fédéral centralisé et fort. Les fabricants souhaitaient un protectionnisme douanier, les prêteurs sur gage désiraient interdire l'usage du papier-monnaie pour le remboursement des dettes, les spéculateurs fonciers être protégés lorsqu'ils envahissaient les terres indiennes, les propriétaires esclavagistes une garantie fédérale contre les révoltes d'esclaves et les fugitifs, les détenteurs de titres un gouvernement capable de collecter l'argent des impôts nationaux, afin de pouvoir, évidemment, monnayer leurs titres. Comme le souligne Bird, quatre groupes, en tout cas, n'étaient pas représentés au sein de la convention rédactrice de la Constitution. Les esclaves, les serviteurs sous contrat, les femmes et les individus ne possédant strictement rien. C'est pourquoi la Constitution américaine ne reflète nulle part les aspirations de ces groupes. Bird affirme pourtant clairement que la Constitution n'a pas été rédigée dans le seul souci de bénéficier personnellement au père fondateur. Même si l'on ne peut ignorer la fortune de Benjamin Franklin, qui s'élevait à 150 000 $, les liens familiaux unissant Alexander Hamilton aux intérêts des classes fortunées, l'énorme plantation esclavagiste de James Madison et les gigantesques domaines fonciers de George Washington. En fait, il s'agissait plutôt de servir les intérêts du groupe qu'il représentait, les intérêts économiques qu'il comprenait et qui se concrétisaient dans leur expérience personnelle. Vers 1776, certaines personnalités de premier plan des colonies anglaises d'Amérique firent une découverte qui allait se révéler extrêmement utile au cours des deux siècles suivants. Ils imaginèrent qu'en inventant une nation, un symbole, une entité légale appelée États-Unis, ils seraient en mesure de s'emparer des terres, des privilèges et des pouvoirs politiques détenus jusque-là par les protégés de l'Empire britannique. Du même coup, il pourrait contenir un certain nombre de révoltes en suspens et forger un consensus qui assurerait un soutien populaire suffisant au nouveau gouvernement contrôlé par une nouvelle élite privilégiée. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.